Peut-être tu peux quand même dire en deux mots ce que c'est le hadith, enfin, moi que tu me connais,
oui.
Juste introduire ce que c'est, et avant, après on passe aux questions. Juste hein, pour
alors,
synthèse, sans rentrer dans les détails.
Synthèse du hadith, c'est quoi? C'est l'ensemble des propos, actions ou commentaires que l'on attribue au prophète. Voilà ce qu'on appelle, pour faire court, le hadith. C'est pas le Coran. Le Coran, c'est 6235 versets. Les hadiths, il y en a jusqu'à je ne sais combien de milliers. Il y a eu une critique là-dessus qui dit qu'en gros, les hadiths tourneraient autour de 4000. Mais bon, enfin, on y répondra si vos questions en viennent à se poser. C'est pas le Coran, encore une fois. Et par rapport au droit musulman, les hadiths sont en deuxième position. C'est le Coran qui sert de référence et les hadiths viennent après.
Les hadiths, ça peut être beaucoup plus que le 4000. Enfin, il y a certains.
Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est par centaines.
70 000.
100 000, voire 200 000, voire 300 000.
C'est infini.
Ces hadiths constituent un corpus qui est figé, ou bien il y a encore des gens qui disent ah, c'est ça.
Oui, oui, oui. Bah, y a, alors, le Coran, autant le Coran, il y a eu les petites questions, dont, mais ça reste minime comparé aux hadiths. Les hadiths, là, il y a à boire et à manger parce que le prophète va interdire que l'on écrive autre chose que le Coran. Donc il avait interdit que l'on écrive de peur que le Coran soit atteint de corruption, comme cela a été le cas d'après la foi musulmane pour les autres livres. Donc il interdit formellement qu'on écrive quoi que ce soit d'autre que le Coran. Et les hadiths vont être, eux, et c'est je pense votre question par rapport à quand il y a eu le recueil et le regroupement du Coran, les hadiths, eux, vont être écrits bien après. On est à peu près à une centaine d'années de l'Hégire.
Et le fer.
Pardon ?
Et le fer, la jurisprudence.
Alors, la jurisprudence, c'est autre chose. Mmh. La jurisprudence, c'est justement à partir de l'instauration, de l'établissement de ce qu'on appelle les recueils de hadiths. Donc, on a maintenant une somme de hadiths qui est bien situé, eh bien, on va pouvoir aller puiser à la fontaine de ces derniers des normes. Comme le Coran est déjà là, eh bien, il est plus facile d'aller puiser. Et c'est ainsi que les écoles juridiques vont naître avec l'école de la raison, ou rationaliste, entre guillemets, qui est l'école irakienne, et l'école dite des traditions, qui est l'école de Médine, où le prophète a vécu.
Mais donc si ces hadiths ont été écrits alors que le prophète ne voulait pas que ça soit écrit,
oui.
Non, c'est pour pas confondre
avec, le Coran. Mais en effet, il a interdit. Oui.
Ça contrevient à ce que demandait le prophète.
La question s'est posée justement au moment de le faire. Quand il s'est agi de constituer les recueils, la question s'est posée et des gens ont dit, mais le prophète nous a interdit de
le faire.
Et il a été chercher un propos qui parlait justement de la fin des temps et de la division d'un butin. Il y avait un monsieur yéménite qui s'appelait Abou Shah, qui était là et qui a tout entendu, et il a demandé au prophète d'écrire sa part. Et le prophète a demandé, a autorisé qu'on écrive sa part. Donc ils vont s'appuyer là-dessus pour dire que, ben, en fait, s'il avait interdit d'écrire au début, c'est pour pas que le Coran soit corrompu. Maintenant que le corpus est bel et bien établi, on va pouvoir écrire le hadith. Mais la question s'est posée.
Donc du coup, dans les divisions entre les musulmans, il n'y a pas, de rapport entre ceux qui sont en faveur du Coran comme unique texte de référence et d'autres qui seraient en faveur de l'ensemble des textes.
Non.
Ça ne crée pas une scission.
Question autrement posée, par exemple, le Coran n'est pas une source de division entre les chiites et les sunnites.
Non.
C'est la même lecture, c'est le même texte.
Pas exactement. Pour scientifiquement parlant, il faut ça. Alors, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se présente, mais les chiites considèrent, certains chiites, ou jusqu'à pas très longtemps, beaucoup, considéraient qu'il y a des parties du Coran qui auraient été retirées, lesquelles parties auraient, d'après eux, soutenu la candidature de Ali.
C'est pas le divergence du fond de.
Mais aujourd'hui, la plupart des chiites considèrent comme les sunnites que le Coran est la source. Mais ils ont quand même écrit, parmi les plus grands savants, j'ai un livre d'un monsieur qui s'appelle Al-Uthmani, qui a écrit un bouquin sur 50 volumes qu'il a intitulé Faslul Khitab, fi tahrifi kitabi rabbi al-arbab, qui dit en gros que c'est le point de partage au sujet de quoi? Au sujet de la corruption du livre des seigneurs, du seigneur des seigneurs, parlant du Coran. Donc certains chiites considèrent qu'il y aurait des parties qui seraient, elles, en faveur de Ali, le gendre du prophète, qui aurait disparu. Et par ailleurs, pour aller dans votre sens, sachez que lorsque le Coran a été regroupé pour la deuxième fois, au temps du troisième calife, Othman, suite à la raison que je vous ai évoquée, il va y avoir le grand compagnon, Ibn Mas'ud, dont on a parlé tout à l'heure, qui, lui, va être farouchement opposé à l'idée que ce soit le petit Zayd qui va avoir la responsabilité de regrouper le Coran. Et il était furieux en disant « Comment se fait-il qu'un gamin que j'ai vu jouer soit à la tête de ce projet alors que je suis musulman pendant que son père et sa mère ne se sont pas encore rencontrés ?» Donc ça va poser beaucoup de questions qui vont par exemple se terminer par ce qu'on appelle la vulgate d'Ibn Mas'ud, qui était aussi une vulgate qu'il a refusée quand Othman a demandé que toutes les vulgates soient effacées. Lui, la sienne, il l'a gardée. On n'a pas de traces. Il y a quelques bribes qu'on a par-ci, par-là, mais il n'y a pas vraiment de traces de ce qu'il a pu, de ce qu'il a dit. Mais lui, il avait un Coran à lui. Donc aujourd'hui, si vous entendez parler du Coran de Othman, c'est de cela qu'il est question, par rapport à ce que je vous ai expliqué.
Vous évoquiez tout à l'heure, dans le cadre de la révélation, que les versets avaient été amenés de façon contextuelle, en fonction des opportunités. Est-ce que ça veut dire que... est-ce qu'on pourrait, dans ce cas-là, opposer à la lecture du Coran, le contexte? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'a plus de réalité... il ne peut plus s'appliquer à la réalité d'aujourd'hui parce qu'il a été révélé à un moment qui ne correspond plus à la réalité du XXIe siècle.
Alors, c'est une très bonne question, mais à laquelle on a répondu depuis très, très, très longtemps, qui est de dire que déjà, c'est un texte, et un texte n'a pas une lecture. Or, procéder ainsi, c'est supposer que le texte a une manière d'être lu. Et donc, c'est au fond consacré. Et c'est un peu l'idéologie des Daesh et compagnie. C'est consacrer la lecture d'un groupe ou d'un temps précis. Et aujourd'hui, on entend les gens dire, le salafisme repose essentiellement là-dessus, nous voulons lire les textes selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Comme si ces derniers étaient une seule et unique personne, déjà dit, ce qui est un mensonge absolu, la preuve, ce que je viens de vous dire. Et par ailleurs, un texte, par définition, est équivoque. Pourquoi réduire un texte à une lecture alors qu'il en existe 36 000 ? Et aujourd'hui, tous les textes coraniques, si vous me prenez, moi je m'amuse tout le temps à demander aux gens à me donner des versets qui paraissent violents, pour qu'en les situant dans le contexte, on comprenne que c'est quelque chose que tout humain aurait fait. Si on vient, tu vois ta femme, tes enfants se faire tuer sous tes yeux, naturellement tu dis « Oh, stop !» Ces versets-là peuvent être situés dans ce contexte-là. Donc il existe des normes auxquelles le Coran a fait allusion qui ne sont plus d'actualité, comme l'esclavage. Le problème, c'est qu'on voit des gens dont une lecture mortifère pousse le raisonnement à leur dire « Mais attendez, il faut que nous revenions à cette époque-là. » Et c'est un peu ce dans quoi s'inscrivent les Daesh et autres organisations criminelles. En 2008, il y a un monsieur qui se dit salafi et savant salafi égyptien qui s'appelle Abou Sakh al-Huwaini. Lorsque la crise de Goldman Sachs s'est posée, il dit, vous les musulmans, si vous voulez que nous résolvions la crise, venez, on va faire la guerre aux non-musulmans, on aura des femmes comme butin, de l'argent, etc. Et les problèmes se résoudront ainsi. Parce que des gens, ça a fait rire tout le monde et ça a choqué les gens. Mais c'est une manière de voir, en fait, qui est très dangereuse. Et qu'il faut dénoncer aujourd'hui, scientifiquement, en preuve à l'appui, en disant que ça ne peut pas être une lecture, ça. Oui.
Trois petits points rapides. Quand tu as évoqué la question de l'absence de points à l'époque et l'absence de localisation, j'ai pas entendu que tu as évoqué la possibilité qui est une multitude de lectures d'un même mot. Mm-hmm. Par contre, il n'y en avait pas une nécessité à l'époque, parce que la maîtrise de la langue arabe faisait comme aujourd'hui, si on lisait un journal qui n'est pas vocalisé, celui qui connaît la langue arabe ne pose aucune problématique. Donc le fait qu'il n'y avait pas les points et qu'il n'y avait pas les voyelles à l'époque, ça ne posait pas de problème, parce que dans le contexte, le mot...
Je l'ai dit quand j'ai dit Tadjes Sessou. Je dis que le contexte permettait de limiter les...
Non, mais il permettait de limiter. Il y avait déjà ce point-là qui était... alors, c'était soit circonscrit, mais plus que ça encore. Mm-hmm. Il y avait non seulement cette maîtrise de la langue arabe, et il y a un point qui vient appuyer ça. Mm-hmm. Ça n'était pas un besoin. Mm-hmm. Et deux, tu n'as pas évoqué le fait que le Coran était aussi appris par cœur. Qu'il y avait aussi des gens qui étaient des rafas depuis la révélation, qui venaient conforter aussi
C'est ce par quoi j'ai fini mon propos, en disant qu'il était connu par cœur et que ces derniers étaient tués dans la guerre de Yamama, et c'est la raison pour laquelle on l'a regroupé.
Donc c'est limité justement le fait que certains disent que certaines parties du Coran n'auraient pas été.
Alors, attention, ça c'est justement, c'est une question méthodologique très intéressante, pour une raison toute bête. Je prends le cas d'Abdullah ibn Mas'ud dont on a parlé tout à l'heure et dont, qui a refusé de mettre de côté sa Vulgate. Lui, il dit avoir entendu du prophète 70 chapitres du Coran sur 114. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il en existe d'autres qu'il n'a pas entendu. Soit dit... Oui, bien entendu, mais... Même au-delà. Moi, c'est pas ce qui m'importe le plus. Là, je rapporte les choses de manière scientifique. Lorsque il y a un propos du prophète, puisque vous y faites allusion, qui dit que Nazal al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Le Coran a été révélé sur 7 lettres. Alors, il y a Suyuti dans son livre intitulé Al-Itqan fi 'ulum al-Qur'an, donc c'est un juriste qui est mort en 911, a fait le commentaire de cela, il a dit qu'il y avait 40 commentaires, 40 sens de 7 lettres. Et Ibn Kathir, le grand exégète du Coran, va dire que l'avis le plus retenu par les savants, c'est qu'un mot pouvait être utilisé par son synonyme. Non, j'arrive à la question. Parce que moi, c'est là-dessus que j'ai le plus insisté. C'est de comprendre que quand tu dis, par exemple, « Afala ta'aqiloun » et que quelqu'un vient dire, qui veut dire « Est-ce que vous ne comprenez pas ?» où vous ne réfléchissez pas, l'aql, et quelqu'un vient dire « Afala tanzuroun » au sens de voir, mais pour comprendre, il y a une question qui va se poser derrière, finalement. La sainteté du propos. Est-ce que, du coup, ce que nous disons, c'est ce que Dieu a révélé tel quel au prophète, ou plutôt, il est possible que ce que nous récitons, ce soit la compréhension de ce que l'on a entendu le prophète dire. Et ce n'est pas la même chose à partir de l'instant où on accepte qu'une lecture, un mot, pouvait être donné par son synonyme. Je ne sais pas si on voit, parce que c'est là-dessus que j'ai voulu le plus insister.
Oui, justement, sur ça, oui. On sait très bien, parce qu'il y a aussi une chose, tu me dis qu'il y avait certaines lectures qui avaient été effacées. Mais au niveau des rafas, elles ont été conservées à l'oral, même si des masahifs ont été détruits, elles ont été conservées, et donc les plusieurs lectures du Coran, depuis la révélation jusqu'à nos jours, ont été...
Vous confondez avec deux choses. Vous confondez cela avec ce qu'on appelle le qira'at ou sab'a, ou le qira'at ou l'asra ou l'arba'ata achar.
Il n'y a pas de problème sur le...
C'est pas ça du tout.
Je crois qu'on est perdu.
C'est pas ça du tout.
Moi, je suis pas d'accord.
C'est pas du tout la même chose. Oui.
Je crois qu'on est un peu perdu. Si on veut revenir sur les...
Oui, allez-y.
Ma deuxième intervention était sur l'autre point où tu avais dit que des sourates des lectures avaient été effacées et qu'il n'y avait pas de traces.
Oui.
Ma seconde intervention n'était pas sur le premier point, mais sur le deuxième point, sur le fait que même si il a été à un moment écrit selon les lectures osmaniques, oralement, les lectures ont été conservées. Donc,
Non. Là, je ne vais pas vous laisser dire ça, c'est faux. Pour une raison toute bête. Non, attendez. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça que je vous dis que vous confondez. les lectures pour lesquelles les gens se sortaient de l'islam, c'est pas de cela qu'il est question quand on parle de qira'at al-sab'a, ou le qira'at, les 7 lectures, ou les 10 lectures, ou les 14. C'est pas de ça qu'il est question du tout. Si Othman ibn Affan a vu le danger, c'est parce qu'il y avait bel et bien des lectures qui étaient différentes. Et d'ailleurs, il y a un propos, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Kitab Abdullah ibn Mas'ud, qui est très très facile, notamment à partir de la page 101, 101 précisément. Vous allez trouver la chose qui suit, c'est que vous aviez une lecture des gens d'Irak, qui était la lecture d'Abdullah ibn Mas'ud, et la lecture des gens du Sham, qui était celle de Ubay ibn Ka'ab. Et c'était pas du tout cette lecture de Nafir, de Walsh, etc. Pas du tout. C'était des lectures avec ce que je suis en train de vous dire, à savoir qu'un mot pouvait être donné par son synonyme. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui existe. Vous allez prendre par exemple un mot comme ce que je vous ai dit là. Wala tajassasu, et vous avez la possibilité chez Warsh ou chez Qaloun ou chez je ne sais qui d'inverser, de ne pas dire la même chose. C'est pas du tout la même chose.
Après la lecture,
on va arrêter là le début.
Oui.
Moi j'ai une autre question.
Oui.
Fatima.
Oui.
En fait, j'aimerais en fait vous entendre, vous, monsieur Barjafil, sur ce qui se passe aujourd'hui sur la structuration de l'islam, eu égard à ce que vous nous racontez dans l'histoire. Et est-ce que c'est devenu aujourd'hui en 2018 en France sur la question effectivement de la laïcité, de organiser l'islam, les différents courants, etc.
Oui. Non, mais si, je vous écoute. Je vous écoute.
Donc, voilà. J'aimerais juste avoir votre point de vue là-dessus.
Ok, Fatima, mais je veux bien comprendre ta question au tout dernier parce que c'est pas tout à fait dans le sujet.
Oui.
Donc on va rester d'abord sur les questions du sujet, plus que dans le sujet.
Je veux bien les questions du même acabit que les questions
de l'Esprit, il n'y a pas de souci. C'est le texte aujourd'hui, en 2018.
Oui.
Est-ce qu'il y a un texte unique sans contradiction possible avec la fluctuation?
Oui.
C'est aujourd'hui le texte du Coran?
Oui.
C'est un texte...
Oui. En fait, depuis Othman, depuis le troisième calife, et ça, il y a clairement des choses, c'est pour ça que je vous dis que c'est faux, il y a clairement... Des données qui montrent que Othman a demandé que toutes les autres vulgates soient effacées. Et seul Abdullah ibn Mas'ud dira, il n'est pas question que moi qui ai entendu 70 versets, 70 chapitres du Coran, j'efface ma manière à moi de voir les choses, donc il est resté dedans jusqu'à la fin de sa vie. Le problème qui s'est posé, c'est que nous n'avons plus de traces, aucune. Je veux dire le contraire, il faudrait qu'on nous le prouve, il n'y a pas. On n'a pas de traces de ces différentes vulgates qui ont existé et aux côtés desquels celle d'Othman a également existé. Ce serait très intéressant de comparer les deux. Ce qui est clair, c'est que lui, il a refusé de changer la sienne. Il a dit, pour rien au monde, je ne la changerai. Donc, de ce point de vue, la nier ça, c'est nier un événement historique qui est indéniable. Par contre, ce que dit notre collègue, c'est par rapport à ce qu'on appelle les différentes lectures. Alors, il a utilisé un mot qu'on appelle ijazat, qui veut dire la transmission. Parce que quand on lit le Coran, nous, quand on nous l'apprenait avec les règles, et il y a 7 à 10 manières de lire qu'on appelle les lectures admises. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les lectures apocryphes, qu'on appelle Shahada, avec un débat là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de lire avec ces... On a le droit d'utiliser ces lectures dans la prière ou pas? Ça, c'est la question se pose ainsi. Mais aujourd'hui, il y a indéniablement un Coran unifié, qui remonte au temps de Othman, étant donné les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, à savoir que les musulmans, les uns lisaient X, les autres lisaient Y, et ils se faisaient la guerre entre eux, et lui, il a dit, non, arrêtons, et que celui qui, parmi vous, a une version, qu'il les fasse pour garder celle-ci.
Voilà. Pour me rapprocher de la question de Fatima, d'aller vers le contemporain, on dit que notamment une des raisons de la guerre au Yémen... Par l'Arabie Saoudite, c'est justement d'effacer un certain nombre de traces qui existent toujours, de traces archéologiques qui existent toujours au Yémen, dont des écrits, des choses anciennes qui seraient trouvées. Est-ce que tu as...
Alors, il y a le fameux manuscrit de Sanaa sur lequel un ami a soutenu sa thèse dernièrement, qui s'appelle Hassan Shahdi, qui a une thèse qui a eu le prix de la chancellerie et de la francophonie. Qui a porté justement sur... il ne l'a pas encore publié, sinon je crois que c'est à l'EHESS en 2016, qu'il a soutenu en décembre 2016, ouais. Et qui a porté justement sur le fameux manuscrit de Sanaa. Mais ça me semble difficilement tenable dans la mesure où, pendant la colonisation, beaucoup parmi ces versions, ou plutôt ces vulgates, sont ici. Moi, j'ai déjà eu entre mes mains un exemplaire du Coran qui date de 1020, de l'ère chrétienne, ouais. Et qui paradoxalement a été immatriculé en Belgique. La personne qui l'a... Alors, on me l'a ramené il y a de cela 7-8 ans, je crois. On me l'a ramené chez moi, la personne était un ami, il me disait « je tiens un incunable », etc. Et il m'a justement demandé de vérifier si c'était le Coran conforme, etc. Donc je lui ai dit oui, alors c'était écrit à la main, d'une écriture très belle. C'est un Coran qui est aujourd'hui vieux de 1000 ans, exactement. Et qui date du 4e, 5e siècle du Coran, qui était tunisien. Apparemment, enfin, il m'a raconté un peu l'histoire, il m'a dit que c'était un fonctionnaire belge qui était en Tunisie, je pense, pendant la colonisation. Et il avait des amis tunisiens au moment de partir. Et ils lui ont fait cadeau parce qu'ils ne savaient pas à quoi ça servait. Alors qu'en fait, c'est les descendants d'un grand lettré, mais qui
n'ignorait pas. Il n'est pas exclu qu'il y ait des choses...
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai parcouru un livre, mais c'est un peu compliqué, de quelqu'un qui écrit beaucoup, c'est Mathieu Guider.
Oui.
Vous le connaissez ?
Oui, de Paris 8.
De Paris 8, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Au commencement était le Coran mm-hmm. » et qui, lui, a analysé un Coran encore plus ancien que celui mm-hmm. que vous venez d'invoquer, mm-hmm. Et donc qui vraiment remonte aux premières années, mm-hmm. et qu'il a découvert, je crois, en Afrique, mm-hmm. En Afrique noire. Et justement, il interprète ce Coran d'origine très ancien, mm-hmm. pour démontrer que toute une série d'informations sur le voile, la décapitation par exemple, ne sont pas les données que l'on donne aujourd'hui, et que véritablement, il faut parfois remonter au Coran d'origine pour mieux comprendre ce qu'est l'islam. Je ne sais pas ce que vous avez lu ce bouquin.
Non seulement je ne l'ai pas lu, mais les versions les plus anciennes aujourd'hui, ouais. Il est quasiment certain que... le Coran tel qu'il est aujourd'hui, c'est le Coran des temps de Othman. On est certain que ça s'est fait, le prophète, ça s'est fait de son vivant ou quelques années après. Donc c'est loin de ce que les gens répandent ici et là. Non, c'est daté au carbone 14, on sait très bien que ça, c'est vraiment la période où le prophète a vécu. Maintenant, ce que vous dites, ce que lui, il dit... En fait, je pense que c'est méconnaître la naissance de ce qu'on appelle la jurisprudence musulmane. Parce que la jurisprudence musulmane, elle va naître dans un contexte d'expansion, entre guillemets, d'hégémonie, de domination du monde. Et il va se poser la question, il disait tout à l'heure au collègue, de quid de comment lire le Coran ou de le faire lire par ceux qui viennent de se convertir et qui ne sont pas arabes.
Ça, c'est plus qu'on parle de
jurisprudence. Et cela va pousser... D'ailleurs, celui qui va présider à ce qu'on appelle le tashkil, la vocalisation, etc., c'est un sanguinaire qui s'appelle Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, un monsieur omeyyade, des omeyyades, mais qui est connu pour être un sanguinaire, même dans l'histoire des sunnites, on admet que c'était un assassin notoire. Et le monsieur, il va être celui qui, paradoxalement, va œuvrer à mettre les points, etc., etc. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que, autant les textes très anciens existent, autant on va avoir, étant donné cette expansion, et surtout étant donné ce besoin permanent de répondre à des questions nouvelles auxquelles... Les habitants de la péninsule arabique, n'oublions pas que l'islam, quand le prophète décède, ou même après le quatrième calife, il n'a pas dépassé la péninsule arabique. On est vraiment dans une région aux mœurs quasiment similaires, en fait, avec quelques différences, mais on est très proche, en fait. Le plus loin où on ait pu aller à l'époque, c'est l'Égypte, c'est vraiment le pourtour méditerranéen, on n'est pas très très loin. Et du coup, les questions qui vont, par exemple, se poser en Irak, qui était un berceau de philosophie et de civilisation, vont chambouler la manière de voir les choses et vont, n'est-ce pas, faire intervenir la théorie aristotélicienne, la logique aristotélicienne. On va, par exemple, il va y avoir des courants de pensée qu'on appelle les Mu'tazilites, qui vont travailler sur la notion de dialectique, qui vont se poser des questions sur les fins premières. Bref, il va y avoir des écoles. Enfin, c'est pas le moment, c'est pour ça que je lui ai dit qu'il faudrait. Bien sûr, ils vont. Vous allez les voir.
Avec Pierre Laurie.
Oui, exactement, avec Monsieur Laurie, avec d'autres personnes, mais c'est des parties, des pans entiers qui sont inconnus et qui, au fond, s'ils avaient continué d'exister, on n'aurait pas Daesh aujourd'hui. Parce que toutes les questions que nous venons d'évoquer, ce qui m'a le plus frappé quand on faisait ces études-là, c'est de voir que il y avait cette liberté pour un compagnon comme Ibn Mas'ud de dire que telle partie du Coran n'en fait pas partie.
Ouais.
Et il n'était pas décapité le lendemain. Il y avait cette possibilité-là. Il y a des gens qui ont dit que tel pan du Coran n'en font pas partie. Et parmi les plus grands compagnons, celui-là, Abdullah ibn Mas'ud, c'est une révolution. Et pourtant, aujourd'hui, que quelqu'un remette en cause, pas le Coran, mais les propos qui sont attribués au prophète, où il y a à boire et à manger, comme je vous ai dit, la personne s'expose déjà à un flot d'insultes, de critiques, etc.
Ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, ça m'a marqué. Oui. Dans votre propre mosquée d'Ivry-sur-Seine,
oui.
Il y a des choses que vous ne pourriez pas dire, que vous nous dites à nous aujourd'hui.
Non. Oui, c'est clair, oui. Parce que ce que je vous ai dit là, c'est... Parce qu'en fait, je peux le dire, mais à condition que les gens restent pour écouter jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, le problème n'est pas cela. Le problème vient du fait que la personne, parce qu'on lui a dit depuis qu'il est né que c'est comme ça et pas autrement, bah, il risquerait de réagir.
Il ne peut pas déconstruire en 30
voilà. secondes. Voilà, donc c'est ça qui est problématique. Et du coup, on se retrouve coincé entre les fachos et les schizos. Tu peux rien faire, en fait, parce qu'il y en a qui te disent que non, le Coran, il est foncièrement ça, etc., c'est mauvais, et puis d'autres qui te disent non, c'est comme ça et pas autrement. Donc ça devient très compliqué aujourd'hui d'évoquer ces questions-là. Et pourtant, une chose très importante, les savants musulmans n'ont pas hésité une seule seconde d'écrire tout cela. C'est que tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans des livres. Parce qu'il n'y avait pas de peur, donc ils ont tout écrit. Ce que je suis en train de... Là, je vous dis... Exactement. C'est des choses qui ont été écrites. Je lui ai cité tout à l'heure les pages d'un livre, etc. C'est des livres qui sont vieux de 600, 700
et là,
ans.
Et on ne pourrait pas les faire sans risque.
Parce qu'il y a un contexte aussi qui fait que... Et puis, il y a eu une dégringolade intellectuelle sans nom.
C'est tout ça. Dégringolade intellectuelle.
Alors, justement, par rapport à ça, et toujours dans ce petit chemin vers la question de Fatima... qu'est-ce qui existe aujourd'hui de solide, selon toi, pour former les gens qui sont compétents ensuite pour prendre la parole sur le Coran, sur l'islam ? Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu qu'on recommande ? Moi, je voudrais me convertir, je voudrais me former en théologie musulmane.
Oui.
Où est-ce que tu m'enverrais ? Est-ce qu'il existe de bons endroits ?
Nulle part.
Ah,
très bien. Nulle part pour une raison simple, en fait. C'est que, en fait, on est aujourd'hui, le constat que je fais, c'est qu'on est pris en sandwich entre deux mondes. Vous avez un monde pour lequel tout ce que je viens de vous dire là ne peut pas être dit parce que ça risque de me remettre en cause telle ou telle chose, etc. Donc c'est le monde conservateur musulman. Et puis de l'autre, vous avez des gens dont le but est de déconstruire l'islam. Alors, t'en as qui te disent, oui, c'est des théories qui existent encore, qu'on ressuscite aujourd'hui. Oui, le Coran, c'est une copie de la Bible, c'est ceci. Et rare, enfin, il y a quelques universitaires, des gens comme Pierre Laurie et d'autres, qui ont un esprit scientifique, qui n'ont pas de parti pris. Moi, ce que je vous ai dit là, j'ai mis de côté ma casquette d'imam pour vous dire... C'est pour ça que je vous ai dit que ce que je vous ai dit là, je ne pourrais pas forcément le dire à la mosquée. Ça ne veut pas dire que les gens ne me souhaiteraient au coup, forcément. Non. C'est que quand je suis à la mosquée, j'ai une fonction liturgique et je l'accomplis. Et par contre, quand je suis avec mes étudiants, je leur dis des choses, voire plus difficiles que ce que je vous ai dit. Donc c'est ça le problème, en fait. Et l'idéal serait d'arriver à faire comme les anciens l'ont fait. Parce que cette culture du débat, de la disputation... Les musulmans, c'est le Mu'tazilite. Je vous dis, il y a eu un débat sur est-ce que le Coran, c'est une parole créée ou une parole incréée. Ça, il y a eu des controverses énormes sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose vient de quoi essentiellement ? Il vient du fait que ceux qui ont été à l'origine de ces théories, c'était des génies. Des gens comme El-Ghazali, El-Farabi, c'était des monstres, vraiment des gens qui ont précédé, c'est les ancêtres des philosophes des Lumières, les Descartes et compagnie. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, pour faire des études de théologie dans le monde arabo-musulman, il faut avoir échoué au concours d'entrée dans les écoles de médecine, de philo, etc. Donc c'est le débile que l'on prend pour envoyer ici. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas été capable de résoudre le théorème de Pythagore, tu ne comprendras pas El-Ghazali. Et si tu ne comprends pas El-Ghazali, tu ne comprendras pas le Coran. Donc c'est ça le problème, en fait. En fait, dans le monde musulman, si vous échouez votre concours d'entrée en médecine, vous allez en charia. Si vous échouez votre concours d'entrée dans l'école d'avocat, vous allez en charia. El-Baghdadi, le calife de Daesh, il voulait faire une faculté de physique, il n'a pas pu, il a fini en charia, il est devenu calife. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il a eu de sales notes au bac, et il voulait faire de la physique.
Et toi, Mohamed, comment t'as fait donc?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, comment j'ai fait? Moi, j'ai eu une double formation. J'ai eu une formation classique auprès de papa, où on m'a dit... des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord aujourd'hui et que je suis en train de... que je remets en cause, mais sur la base des propres... En fait, ce que j'essaye de faire dire à mes co-religieux, mes co-religionnaires, pardon, c'est qu'il y a dans l'histoire des sciences, dans l'épistémologie des sciences islamiques, ou ce qu'il convient de nommer ainsi, la possibilité de débattre. Or, on a tué le débat. Moi, quand mon père m'a enseigné, je le dis souvent à mon ami, qu'une femme pouvait rester enceinte 4 ans, je l'ai appris. Mais mon père, il a 80 ans. Et ça, c'est écrit dans les livres de droit chafiïte. Qu'une femme peut rester enceinte ad vitam aeternam, 4 ans, 5 ans, etc.
Vous pouvez porter le même bébé?
Bien sûr. Et alors, moi, aujourd'hui... Je remets en cause cela. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on a des gens dans les écoles dont je vous ai parlé. On a des gens pour qui on ne doit pas débattre de cela. Ça, c'est la religion. Et c'est au fond ces gens-là avec qui j'ai des problèmes aujourd'hui. Moi, je leur dis, venez, parce que ça, là, ce que vous dites, je le connais par cœur depuis que j'ai 6 ans. Mais venez. Et on va discuter par A plus B, vous démontrer que ça ne peut pas... Oui, texte à l'appui. Mais le problème, c'est que vous avez des gens... Comme je vous ai dit, les schizos et les fachos, vous avez des gens qui connaissent rien du tout à la complexité des débats et qui viennent, qui te disent les musulmans, en vrai, le vrai islam, c'est celui de couper des têtes. Et puis de l'autre, vous avez des gens qui ont figé la lecture, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire considérer que c'est has-been, ou plutôt que c'est comme ça, on doit vivre comme cela. Et du coup, le monde est divisé encore aujourd'hui en terre de guerre et en terre de paix, en terre d'islam et en terre de mécréance. On n'a pas compris que l'État-nation est passé par là, qu'il y a eu Ernest Renan, qu'il y a je ne sais quoi, qu'on parle de supranationalité. On continue à raisonner en termes de tribus. Et du coup, vous êtes le blanc, vous êtes méchant, vous êtes un non-musulman, vous êtes l'ennemi, alors que vous êtes mon médecin, vous êtes mon avocat, vous êtes je ne sais quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une schizophrénie énorme, sans nom, dans laquelle les gens nagent. Et aujourd'hui, moi, quand j'écris, ça m'amuse, en fait, ça me révolte, mais en même temps, ça m'amuse, parce que quelqu'un qui prétend combattre l'impérialisme américain, etc., mais qui a Facebook, qui a les réseaux sociaux, etc., je lui dis, mais tu es malade, tu ne te rends pas compte de ce dans quoi tu nages. Tu as la marque de, parce que ces jeunes-là qui se disent, c'est la fille, etc., Nike. Ils ont des marques Nike, exact. Allez, va te faire soigner. Mais le problème, c'est que c'est malheureusement... Il y a beaucoup de choses.
C'est bien les Nike.
Oh, je ne vais jamais essayer, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas.
Mais c'est très, très, très intéressant.
Sur la question de Fatima, peut-être pour conclure, sur ce qui se passe
aujourd'hui. C'est une question, personnellement, que je ne maîtrise pas trop. Je vais essayer, vaille que vaille, d'y répondre.
Un petit peu sur ce qui se passait sur l'organisation, l'islam.
Oui.
Vous faisiez des commentaires.
Vous avez témoigné.
Alors, témoigner, c'est un bien grand mot. Oui, les attentats, c'est autre chose. Parce que je les situe dans un débat théologique. Parce que je n'ai pas froid aux yeux quand je dis aux gens que tout ce que Daesh fait, c'est dans le droit musulman. Sans enlever une virgule. C'est dans le fiqh. Tout. Sans exception aucune. Et moi, je dis aux gens, je veux que quelqu'un me contredise. Le problème que...
Précise.
Pardon ?
Pas dans le Coran.
Pas dans le Coran, j'ai dit dans la jurisprudence musulmane. Hein. C'est-à-dire la lecture des hommes, ce qu'on en a fait, c'est pas la même chose. Dans le droit musulman, ça existe. Tout sans exception aucune.
Dans tout
ce que Daesh fait, c'est dans le fiqh.
Mais c'est pas dans le catizimam.
Si. Ah là, oui, si vous avez, je vous donne les pages. Il n'y a aucun problème. Le souci n'est pas là. Le souci vient d'une chose toute bête. C'est que quand vous avez un imam comme Malik, il est né en 93 de l'Égypte. Il est mort en 179. Là, selon le calendrier égyrien, nous sommes en 1440. Le problème que je dénonce, moi, c'est que si tu veux lire 2018 avec les lunettes de quelqu'un qui est mort il y a 1300 ans, tu es malade. C'est là où le problème se pose. Or, Malik ibn Anas, si vous prenez quelqu'un qui a vécu en Europe, au même moment que lui, vous allez trouver des idées qui ne seront pas très loin, indépendamment de leur foi, parce que les réalités de leur temps leur dictaient cela. Donc c'est être malhonnête que de chercher à juger Malik par rapport à ce que nous vivons, mais ça l'est encore plus que de chercher à juger notre monde avec les lunettes de Malik. C'est là où je me situe par rapport à ces débats-là. Je dis aux gens, mais n'allons pas loin. Ce que Daesh fait, couper des têtes, brûler les gens, tuer, prendre des femmes, tout ça, c'est écrit. Mais quand est-ce que ça a été écrit? Ça a été écrit à des moments où c'était normal, entre guillemets, partout dans le monde. Pas seulement ici, pas seulement là-bas. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit les musulmans... les croisades, c'est passé par là, on est passé... Bref, il y a énormément de choses que l'on pourrait se dire. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'islam est venu 500 ans, voire 600 ans après le christianisme, et que l'évolution de l'histoire est passée par là. Bref, on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on fait mine d'ignorer tout cela pour dire que non, en fait, les musulmans, il ne faut pas que tu serres la main à un non-musulman. Il faut que quand tu le croises, tu le serres dans le coin le plus serré de la route, et l'imam al-Nawawi il écrit que tu ne dois pas lui dire salam en premier, bref, tu ne dois pas lui dire bonjour en premier, si tu peux le manger, le tuer, le manger si vous êtes en guerre, bref, des atrocités, mais vu de notre temps d'aujourd'hui, mais si vous prenez quelqu'un qui a vécu au même moment que lui dans le monde, vous allez trouver des choses qui ne sont pas très différentes. Donc moi ce que je dis c'est quoi, par rapport à l'organisation de l'islam de France et même par rapport à l'organisation de l'islam dans le monde, c'est seulement de pousser les gens vers deux choses. La première, réformer la jurisprudence sur la relation avec l'autre. Parce qu'il y a c'est normal pour les raisons que je viens de vous dire. Il y a vraiment des catastrophes, mais qui ne sont pas imputables aux gens qui les ont produites parce qu'ils sont les fils et les filles de leur temps. Deuxième point, réformer la jurisprudence sur les libertés individuelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu toute une jurisprudence qui a été développée sur, par exemple, la notion d'apostasie. Le Coran ne parle pas du tout d'apostasie. C'est écrit nulle part dans le Coran, ça. Mais qui est-ce qui a développé cette jurisprudence ? C'est une jurisprudence qui a été développée par des gens qui étaient dans une situation de domination qui n'est pas très différente de celle au nom de laquelle Jules Ferry va te dire que rayonner sans agir pour une grande nation, c'est abdiquer, ou Kipling qui parlait du fardeau de l'homme blanc. On est dans des manières de penser qui ne sont pas différentes, en fait. Et moi, puisque mon ami me posait la question de savoir comment moi je fais, pour être né dedans, un peu comme Obélix, et pour avoir fait de la philosophie, pour avoir été à l'université, avoir fait des études en sciences humaines avec la notion de critique, ben j'essaye de réunir les deux, de lire les deux mondes à la lumière de ce que j'ai appris, mais pas de prendre tel quel ce que mon père m'a dit, il est mon maître et mon père, et venir vous le dire aujourd'hui, voilà, le droit musulman dit que si tu construis une maison à côté d'une... Un non-musulman construit une maison, il faut que celle du non-musulman soit en dessous de celle du musulman sous peine d'être démolie. Où est-ce que c'est écrit cela ? C'est écrit nulle part. Oui ?